carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Bonjour. La visite de l'exposition Vestiaire de Diva, qui se tient à Moulins, dans l'Allier, au Centre National du Costume de Scène, jusqu'au mois de décembre prochain, se poursuit sur Canal Académie avec ce second volet. Vous y entendrez des entretiens que nous ont accordés sur place l'âme fondatrice du CNCS, le Centre National du Costume de Scène, Martine Kahn, ainsi que le scénographe, designer, couturier italien qui a réalisé cette exposition Vestiaire de Diva, Maurizio Galante, et un grand nom de la création dans le domaine de la haute couture française, Christian Lacroix, qui dans le cadre enchanteur de Moulins et de son centre national, mais à vocation en réalité internationale aujourd'hui, du costume de scène, nous a accordé une interview exclusive. Il faut vous dire que Christian Lacroix est le président d'honneur du conseil d'administration du CNCS. Martine Kahn et sa collaboratrice, directrice du CNCS, Delphine Pinazza, ont écrit « N'oublions pas qu'à l'origine, pour les Romains, puis pour les Italiens, la diva est une déesse. À l'aube du XIXe siècle, elle descend sur terre sous les traits d'une cantatrice dont le talent, la personnalité, la virtuosité forment un cocktail détonnant qui nourrit un succès et une popularité sans pareil. Son public va bien au-delà du cercle des amateurs et lui voue un culte passionné. » Christian Lacroix a ajouté « La diva perfetta, assoluta, transgresse tous les codes pour échapper aux simples mortels que nous sommes. Elle use de violence pour brouiller les pistes et perpétuer le feu sacré éblouissant qui nous aveugle. Elle explore les abysses du désespoir, tragédie à la scène, suicide à la ville, pour nous faire éprouver les tréfonds de son âme, de son art et de sa condition. La diva est d'une dimension où consensus et convenance ne sauraient avoir cours ni sens. » Martine Kahn, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir dans ce magnifique Centre national du costume de scène qui se trouve à Moulins. Expliquez-nous d'une part l'historique de ce bâtiment dans lequel vous nous faites le plaisir de nous accueillir aujourd'hui.
C'est un bâtiment, c'est aussi un site puisqu'il fait 4 hectares au bord de l'Allier, en face de la ligne des toits de Moulins, au-delà d'un très beau pont sur l'Allier qui s'appelle le pont Regemorte, du nom d'un ingénieur de Louis XIV qui a créé ce pont. C'est en fait le premier quartier de cavalerie, puisqu'on ne dit pas caserne pour cette arme noble qu'est la cavalerie, on dit quartier. C'est le premier quartier de cavalerie construit sous le règne de Louis XV, sur l'ordre du duc de Choiseul, qui était ministre de la guerre de Louis XV, pour encaserner en fait les cavaliers. Et on sait que les troupes à l'époque logeaient chez l'habitant, où elles faisaient beaucoup de désordre évidemment. Tout le monde a en tête cette opérette qui s'appelle « Les mousquetaires au couvent ». Donc on a voulu mettre les troupes dans ces casernes et celle-ci est un prototype, si on peut dire. C'est le premier quartier de cavalerie construit en France par un très grand architecte du siècle des Lumières qui est André Antoine, grand architecte qui notamment a construit l'Hôtel des Monnaies à Paris. C'est un noble bâtiment, comme vous pouvez le voir, aux belles proportions, très majestueuses, et en même temps qui est fait avec une très belle pierre, une pierre blonde, dorée, avec des veines qui vont du rose au violet, qui est une pierre qu'on trouve dans une petite carrière qui est à côté d'ici. C'est du grès, en fait. Et les sols, eux, sont en lave. Vous savez qu'on n'est pas loin de Clermont-Ferrand, donc de la chaîne des volcans, et les sols sont en lave. Voilà. Les cavaliers ont disparu à l'entre-deux-guerres au profit des troupes portées par des engins, par des voitures, par des avions, etc. Et à ce moment-là, la caserne a été sans destination aucune. Et naturellement, comme tout édifice sans destination, elle a commencé soit par être récupérée pour faire des logements de gendarmes notamment, et puis elle a commencé à se détruire lentement mais sûrement, et on n'en avait pas l'affectation. Un des maires de la ville de Moulins, il y a maintenant 20-25 ans, a voulu la démolir puisqu'on ne savait pas quoi en faire. Et l'État l'a sauvée en classant le bâtiment principal qu'occupe le musée maintenant, en le classant monument historique. Et c'est à partir de ce classement qu'a commencé à se développer un programme scientifique pour savoir ce qu'on allait faire de ces espaces qui sont très beaux. Les espaces sont en fait trois plateaux de 1500 mètres carrés chacun. Le plateau du rez-de-chaussée étant voûté, puisque le plateau du rez-de-chaussée était les écuries. Et puis les deux plateaux supérieurs étaient les chambrées des hommes et les chambres des officiers. Donc c'est aussi un bâtiment qui est assez calpiné, puisque vous savez que les chevaux pour les écuries, les stalles des chevaux, en fait, ne doivent pas correspondre. Les chevaux sont des animaux fragiles qui attrapent facilement des maladies qui se dispersent et il ne faut pas que les écuries soient d'un seul tenant. Donc vous avez une suite de cellules, si je puis dire. Et c'est là que s'est développée l'idée de transformer non seulement ce bâtiment mais ce site en musée du costume de scène, ce qui n'existe nulle part ailleurs.
En Europe ?
Non, dans le monde.
Dans le monde ?
C'est le premier du genre. C'est le premier du genre. Et aussi parce que nous avons la chance d'avoir comme partenaire des grandes institutions culturelles, c'est-à-dire l'Opéra de Paris, la Comédie Française et la Bibliothèque Nationale de France, qui, pour les deux premières et qui sont des théâtres, ont des ateliers de couture extrêmement prestigieux, et prestigieux depuis Louis XIV, ça ne date pas d'hier, qui nous ont confié leur fonds muséographique. Et puis la Bibliothèque Nationale de France, qui elle, depuis des siècles, conserve les traces papier, maquettes, affiches, programmes, photos, estampes de la vie théâtrale française.
C'est un magnifique exemple de ce que l'on appelle rapidement la délocalisation.
Absolument, c'est un exemple de décentralisation culturelle, comme on en connaît peu, puisque c'est une création en plus. Et je peux vous dire que nos collègues étrangers sont venus du monde entier, sont venus de Chine, du Japon, du Canada, de Suède, les Anglais bien sûr, mais l'Europe est à la porte, sont venus pour voir ce qu'on avait fait, parce qu'ils en sont extrêmement curieux.
Alors, Martine Kahn, vous êtes à la tête de ce Centre national du costume de scène qui attire des milliers de visiteurs de par le monde. Depuis combien d'années ?
Le centre a ouvert il y aura 4 ans, le 1er juillet 2010. C'est le ministre de la Culture, Renaud Donnedieu de Vabre, qui a ouvert ce musée, en compagnie évidemment des collectivités locales, puisque la ville de Moulins et le département de l'Allier sont aussi nos partenaires, avec l'État, bien sûr, et puis les trois grandes institutions culturelles que je vous ai citées, qui sont dans notre conseil d'administration. Nous travaillons vraiment ensemble. D'ailleurs, la prochaine exposition, celle qui suivra Diva, est faite par un conservateur de la Bibliothèque nationale. Et la suivante encore, pour l'été 2011, est faite avec la Comédie Française. Ça sera un hommage aux ateliers de costumes de la Comédie Française.
Alors justement, quelle est votre organisation et votre philosophie, en quelque sorte, de ces programmations ?
Alors l'idée de la programmation, c'est évidemment de montrer les collections. Nous avons 9000 costumes qui nous viennent de l'opéra, de la Comédie Française, ou encore de dons d'artistes. On montre, par exemple, en ce moment, pour ces divas, des costumes qui nous viennent des successions de Jacqueline François, de Régine Crespin, des dons qui nous ont été faits par Christian Lacroix, par Franck Sorbier. Donc, on a un fonds important en propre aussi. Donc, on les montre à raison de entre 100 et 140 costumes. Une exposition au Centre national du costume de scène, c'est entre 100 et 140 costumes. En choisissant des thèmes qui sont le plus différents les uns des autres que possible, pour bien montrer au public qu'à partir de ce média unique qu'est le costume de scène, en fait, on parle du corps, ce qui intéresse tout le monde.
Donc, vous jouez sur des costumes que vous maintenez, que vous entretenez dans des réserves, et vous jouez également sur l'arrivée de nouveaux costumes de par le monde, comme les magnifiques costumes italiens de la Callas que nous avons pu voir.
Alors là, il y a des prêts exceptionnels, c'est-à-dire, si vous voulez, au fil du temps, donc le musée a ouvert maintenant, puis il y a près de 4 ans, la confiance est venue. Au début, comme c'est le premier du genre, on ne comprenait pas très bien ce qu'on voulait faire. La confiance est là, et les grandes maisons internationales nous prêtent leurs costumes. Là, vous avez des costumes qui viennent de New York, ceux d'André Fleming, vous avez des costumes qui viennent de Rome et de Milan pour la Callas, vous avez des costumes qui viennent d'un petit peu partout quand même, parce que, encore une fois, maintenant le centre s'est imposé dans le paysage culturel international comme l'endroit où on conserve, où on travaille, où on explique. Vous avez vu nos catalogues, on publie, on fait des produits boutiques, où on travaille sur ce média extraordinaire qui est en fait la seconde peau de l'artiste.
La peau qui l'accompagne en représentation, la peau qui nous fait vibrer à notre tour, nous, assis, public, dans la salle. Pourriez-vous nous donner une idée des précédentes expositions ?
Alors, nous avons ouvert avec une exposition familiale. Nous l'avons voulu, qui s'appelait « Bête de scène » et qui était très amusante parce qu'elle traitait du costume animal. Comment la scène recrée des costumes animaux. Tout le monde a adoré ça et c'est une exposition qui est partie après à Madrid. Et puis après, nous avons fait « J'aime les militaires, nous sommes dans une caserne ». Donc en écho à ce célèbre air de la grande-duchesse de Gerolstein, nous avons traité cette fois-là du costume militaire revu, évidemment déformé, transformé, imaginé par le spectacle. Ensuite, nous avons rendu hommage à Christian Lacroix, qui est notre premier président du conseil d'administration, qui nous a accompagnés depuis l'ouverture de ce musée. Et nous avons fait une exposition sur Christian Lacroix costumier, et non pas couturier, qui a été à Sao Paulo, qui a été à Singapour, dans le cadre de l'année de la France, au Brésil, et complétant des programmes qui étaient faits par le ministère des Affaires étrangères. Après, nous avons fait les Mille et une nuits, costume des Mille et une nuits, l'orientalisme. Il était très magique aussi. Et puis ensuite, nous avons fait un hommage à Rudolf Nureyev, car la Fondation Nureyev nous a fait don de toutes les affaires de Rudolf. Et nous allons ouvrir des salles permanentes en hommage à Rudolf Nureyev. Et puis ensuite, nous avons fait, pour le centenaire de l'aventure de Diaghilev et des ballets russes, une exposition sur les costumes russes, sur les costumes des productions d'opéra qui ont été montées par Diaghilev. Et puis, nous sommes arrivés au divan.
Martine Kahn, on peut dire que ce sont de superbes fantômes qui hantent ces lieux historiques.
Ah oui, c'est un lieu qui est très habité, d'abord habité par ceux qui y travaillent. Et c'est encore la première équipe qui a ouvert le centre qui est là, et le centre est le bébé de tout un
Combien
chacun.
Combien de
ici.
Personnes travaillent dans
25.
Ce centre ?
Nous avons 25 permanents, avec un gros service pédagogique. On travaille avec beaucoup, beaucoup d'enfants, d'écoles, d'élèves aussi. Nous avons un partenariat avec l'école du Louvre, pour les élèves qui ont choisi la spécialité textile, avec l'Institut national du patrimoine, avec tous les lycées du costume, évidemment. Donc beaucoup, des ateliers de pratique, on fait des ateliers de broderie, on fait des ateliers familiaux, on fait des ateliers de costume, on fait des ateliers de dessin, des ateliers de danse, des ateliers feutres. Il se passe toujours quelque chose. Nous avons cet auditorium où le dimanche, on passe des films en relation avec l'exposition. Nous avons un restaurant, ce qui permet aux visiteurs de rester sur place et d'y passer quasiment la journée. Et puis une boutique aussi qui est parcourue avec bonheur, d'ailleurs, je dois dire, par les petits comme par les grands.
J'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires, leur uniforme coquet, leur moustache et leur plumet. J'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires, leur air vainqueur, leur on le trouve. Et quand je vois là mes soldats prêts à partir pour la guerre, fixe, droit, le gardage pauvre et Dieu, j'en suis toute fière. Seront-ils vainqueurs coup d'effet? Je n'en sais rien, ce que je sais. Je n'en sais rien, ce que je sais. Je n'en sais rien, ce que je sais. Oh, que j'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires. J'aime, oui, j'aime les militaires.
On comprend tout à fait l'intérêt d'une telle création que ce Centre National du Costume de Scène, l'intérêt fortement marqué de la part de tous les professionnels de la scène, de l'art en général, de la culture, de par le monde. Mais au niveau du public, quelle est la fréquentation de ce centre ?
Alors le centre a connu très régulièrement depuis son ouverture entre 60 et 65 000 visiteurs par an. Ce qui est beaucoup, nous sommes à Moulins et pas à Paris et pas dans une grande ville, c'est beaucoup. Ces visiteurs viennent quasiment moitié par moitié, soit de la ville, du département, de la région, soit de toutes les régions françaises, avec évidemment la région parisienne qui est très fortement là, mais aussi autour de Dijon, qui n'est pas très loin, et même jusqu'à Nantes, ou remontant du Midi. Nous sommes sur la fameuse Nationale 7.
De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fait racette. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête, les oliviers sont bleus, ma petite Lisette, l'amour joyeux est là qui fait risette, on est heureux National 7.
Que tout le monde a pris, qu'on a chanté pendant des années. Et donc, si vous voulez, on a un public qui est très bien balancé, si je puis dire, entre un public plus local et un public qui vient en général de toute la France. C'est un public souvent très familial, ce qu'on trouve vraiment très important. Et d'ailleurs, nous faisons des visites guidées spécifiques pour enfants, avec un atelier après, pour qu'ils fassent de la pratique aussi. Et puis des visites guidées pour familles, enfants et parents, avec de la pratique aussi, ensuite. Donc on dimensionne vraiment les choses pour ces familles, et puis bien sûr, beaucoup de professionnels aussi.
Martine Carne, pour terminer, votre coup de cœur par rapport à cette exposition Diva.
C'est difficile, hein, ça, parce que vous savez, les derniers bébés. Bon, je crois que les costumes de Calas s'imposent, si vous voulez. Ils s'imposent pour leur simplicité et pour leur dignité. Et un costume, c'est souvent le reflet, bizarrement, de la personne qui l'a porté. Alors que la personne qui l'a porté n'est pas celle qui l'a conçu, celle qui l'a dessiné, celle qui l'a cousu. Mais souvent, très curieusement, c'est son reflet. Et je pense que ces costumes nous disent beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Maria Callas.
Martine Carne, est-ce que c'est à vous qu'incombe la tâche d'entretenir et de recoudre, de soigner tous ces tissus magnifiquement conservés chez vous ?
Alors de les conserver, oui, vous allez visiter d'ailleurs les réserves tout à l'heure, vous allez voir le soin que nous mettons, ce sont aujourd'hui les réserves les plus modernes au monde, hein. Ce que vous allez voir le soin. Non, nous n'intervenons pas sur les costumes, nous demandons à des restauratrices spécialisées textiles d'intervenir. Ça n'est pas notre métier.
Et alors, toutes ces belles vitrines sur fond noir sont là pour protéger ces vêtements.
Oui, l'air est traité, il y a des filtres anti-poussière, l'hygrométrie est régulée, il y a des pièges à insectes. Tout ça est conçu spécialement, effectivement, pour exposer du textile dans les meilleures conditions possibles. Le textile, c'est ce qu'il y a de plus proche de la peau humaine et c'est aussi fragile que la peau humaine.
Merci Martine Carne.
Merci beaucoup.
Maurizio Galante est designer, couturier et directeur artistique de l'exposition Vestiaire de Diva. Maurizio Galante répond, lorsqu'on lui pose la question « Qu'est-ce qu'une diva ? Qu'est-ce qui vous fascine chez les divas ?» Il répond « Réel et irréel, fragilité et force, beauté complexe et simplicité pure, vie privée et vie publique, pensée commune et fragilité intime, un équilibre délicat. Parfois, un véritable exercice d'acrobatie sont nécessaires pour réussir à garder les deux mondes bien séparés. Le parcours de cette exposition Vestiaire de Diva à Moulins raconte cette dualité avec deux espaces bien précis. Un premier espace lié à l'intime, au personnel, à ce qui se passe derrière la scène et que le public peut difficilement voir. Dans un décor de loge, divers objets, tenues et accessoires sont rangés et attendent leur diva, prêts à être utilisés comme simples instruments ou comme objets de la mémoire. Un second espace, au contraire, avec ses vitrines généreuses, ouvertes vers le spectateur, raconte l'image publique avec une série de tenues et de costumes de scène, témoignage de moments magiques et uniques. Alors Maurizio Galante, comment êtes-vous intervenu dans la scénographie, dans la présentation de cette très belle exposition ?
C'est Delphine Pinaza qui m'a contacté à peu près un an, 8 mois, et il m'a proposé cette collaboration avec les centres. Et là, je me suis occupé de la direction artistique de l'exposition, dans le sens que j'imaginais la mise en scène, la distribution de les divas. Ensemble, la Delphine, on a choisi aussi un rapport de ce que c'est la collection de les centres, les différents sujets et aussi les différents personnages.
Alors justement, ces différents personnages, ça a été difficile de les sélectionner?
Je dirais que c'était agréable, c'était un plaisir. Quoi, on a découvert, moi j'ai découvert doucement des traits de caractère ou des choses insolites.
Vous insistez beaucoup en disant que ce tissu a collé à la peau d'un artiste, d'une artiste qui a été l'interprète, qui a été l'instrument qui réceptionne l'art, la dimension artistique. Donc ce vêtement raconte lui aussi une histoire, une émotion artistique. Ouais. Et c'est dans l'état dans lequel la diva l'a porté, même a transpiré dedans, a vécu, a souffert.
Ouais.
Alors racontez-nous.
Oui, je trouve que, alors par exemple, une chose très très émouvante, je trouve que la petite valise d'Edith Piaf, il raconte ça d'une façon très très claire. C'est très émouvant de voir cette petite valise qui l'accompagnait tous ses voyages, où à l'intérieur il avait des choses très personnelles, où vous avez une photo que c'est la photo qu'elle il préférait de sa vie. Il signifie que vraiment c'était des objets, ils sont pleins de l'énergie de quelqu'un, ils sont imprégnés de la vie de quelqu'un, voilà. Il nous raconte doucement les oreilles des histoires. Voilà, c'est ça que j'aime.
Voilà. Des souvenirs, des vestiges, des traces un peu laissées par ces artistes derrière eux.
Et c'est très très intéressant de voir à l'intérieur justement les pièces, là où il a des petites choses qui sont mal cousues, qui sont déchirées, qui correspondent à une période très précise, de voir que des fois les vêtements ils ont été retouchés, quoi, le corps il a changé. C'est très intéressant.
C'est la vie.
Oui, voilà. C'est justement ça. On voulait raconter à travers cette expo cette sorte de dualité qu'il existe dans Diva, là où c'est une personne comme tous les autres, je dirais même plus fragile, justement pourquoi il faut qu'elle consacre une autre partie de sa vie et qu'elle donne toute cette énergie pour le public.
Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.
Maurizio Galante, vous avez eu l'occasion d'habiller des divas. Et certaines de ces robes racontent ce travail de créateur à votre tour. Le créateur qui crée pour une autre artiste qui, elle aussi, va donner à son public, va créer pour son public.
Oui.
C'est la transmission de l'art.
C'est triste de visiter des musées de mode, un musée de costumes, là où les vêtements ils sont simplement exposés sous des mannequins. Ça fait vraiment quelque chose de morbide, et en même temps, c'est quelque chose que je trouve qu'il n'a pas beaucoup de sens. Alors justement, je dis, c'est fondamental qu'à côté de ça, on a une grande recherche à niveau de documentation, à niveau d'image, sur qu'est-ce que c'était cette costume. On lui redonne la vie, que bien sûr, il ne peut jamais être comme le moment qu'on a porté. Jamais on peut revivre un moment. Quand même, il raconte des choses. Et ça, c'est fondamental.
Oui, alors je ne sais pas comment vous l'avez traduit. Vous allez peut-être pouvoir nous l'expliquer, puisque les auditeurs entendent ce que nous disent, mais devront se rendre évidemment au Centre National du Costume pour l'apercevoir et le comprendre eux-mêmes. Mais il y a cette atmosphère que l'on ressent tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un grand respect. on est là comme un public admiratif devant les œuvres exposées, comme vous le dites, mais on sent cette présence humaine avec le costume, mais on va chaque fois à l'essentiel. Alors, je ne sais pas comment vous avez réussi votre scénographie, mais il y a l'essentiel, et il y a la chose qui vit, soit avec le Fellini, avec le Visconti, avec le cinéaste qui a mis en scène la diva, et qui s'exprime, parce qu'il y a aussi des écrans vidéo à côté des vitrines, des costumes. Racontez-nous.
Il y a aussi un catalogue qui raconte tout à fait comme un instrument technique, qu'est-ce que c'est la robe, où elle était portée, dans quelle occasion, et il a aussi des documents. Je dirais que je suis parti de l'idée qu'on fait des expositions pour le public. Et je dirais pas seulement ça, je dirais aussi pour le plaisir d'être visité. Je trouve que les concepts classiques des musées, comme c'était, comme encore c'est un petit peu, c'est quelque chose de lié à le 19e, là où les visiteurs ils visitent en forme passive une exposition et où il a des langages que c'est surtout un langage pour une élite et voilà, et qu'on vive d'une façon passive cette expérience. Là, j'ai envie que les personnes qui visitent cette expo, ils sont en même temps en face de l'objet, mais en même temps, ils sont à l'intérieur, ils vivent avec, et que quand ils sortent, ils racontent des choses, des émotions. L'exposition elle-même, il veut toucher l'intérieur de nous, et il veut nous faire vivre des émotions. Ça, c'était le but de l'exposition.
Mais je crois que c'est tout à fait donné à un créateur tel que vous, d'avoir pu faire vivre cet état d'esprit, cette façon de faire ressentir les choses au public, parce que vous êtes un créateur qui crée donc de superbes robes, de superbes parures, des atouts, des atours, mais qui doivent être portés et qui sont portés. Et vous les voyez portés. Et ces costumes et ces parures et ces robes que vous faites, ou que vous créez, sont portés. Et donc, ça fait partie de votre création de les voir vivre.
Moi, je pense que l'exemple, pour moi, plus intéressante, c'est le théâtre de Dalida qu'on a fait dans l'exposition. Dans le sens que pour moi, Dalida, ça représente la diva qu'elle arrivait à maîtriser le public à travers une gestualité, à travers un mimique, à travers, si on veut, aussi un langage. Alors là, j'avais envie vraiment de je ne dis pas de revivre ce moment, mais quand même de nous donner une partie de cette force. Là, je me suis dit, pourquoi pas, on va recréer un théâtre, que c'est, par exemple, c'est la seule diva qui est à l'intérieur de l'Expo, il a un théâtre. Là, c'est comme si on va voir un concert de Dalida. Et ça, c'était l'idée. Alors, en bas, vous avez les robes, que chaque robe correspond à une vidéo différente et à un concert différent de Dalida. Et quand elle termine une vidéo, il a une autre robe qu'elle sort, qui correspond à une autre vidéo. Et là, vous avez toute la mimique, vous avez toute les gestualités de Dalida.
Quel est votre relationnel avec ce mot diva?
La diva, pour moi, c'est, comme je disais au départ, c'est quelque chose qui représente en même temps quelque chose de très fragile, en même temps quelque chose de très, très fort. Et cette dualité que j'ai remis à l'intérieur de l'exposition, je trouve que c'est l'âme tout à fait de mon travail. C'est fondamental, la diva, c'est quelque chose qu'il vive, il impose des choses, il transmet des choses à le public, mais en même temps, c'est le public qui décide qui est diva et qui n'est pas diva. Alors, c'est vraiment très, très intéressant.
Force et fragilité, ce sont les deux choses fondamentales que l'on trouve à l'intérieur de la grande diva aussi, ouais. C'est Maria Callas, qui est là comme une icône dans cette robe magnifique de Médée qu'il a fallu faire venir de l'Italie. Alors, c'est vous qui avez...
Alors là, c'est justement, c'est très intéressant, quoi. On a rencontré plusieurs personnes, on a rencontré Piero Tosi, on a rencontré des autres costumiers. Chacun, il a sa vision sur Maria Callas. Alors, il a des personnes qui nous ont raconté qu'elle était horrible, elle avait un caractère... terrible, mais il y a quelqu'un qui nous a dit, pas du tout, c'était une femme tellement douce, elle était très disponible. Alors justement ça, c'est que chacun de nous, il interprète à rapport de ce qu'il a à l'intérieur des choses. C'est ça.
Et après, les légendes se créent ouais. autour de ça.
Oui, la robe qu'on a dans l'exposition de Médée, c'est la robe des rites portée par Maria Callas dans les films de Pasolini. C'est la robe plus importante des films. Pour la première fois, elle se rencontre avec les bijoux qu'après les films sont été stockés dans des... Je ne sais même pas où. Bah, quand même, on a retrouvé. Quoi. Moi, je me souviens qu'à l'époque, quand j'étudiais à Rome, j'avais vu cette bijou chez quelqu'un. Et voilà, je fais un travail de recherche, je suis arrivé à la voir. Et aujourd'hui, pour la première fois, c'est rencontre.
Donc là, l'appareillage de la robe et tous ces bijoux sont au complet.
Je dirais que Médée, c'est vraiment la force archaïque par excellence.
Votre coup de cœur de l'expo, c'est quoi, Marie-Zébrante?
Il y a trois choses. La petite valise d'Edith Piaf, très émouvante. La robe de Médée et le théâtre de Dalida.
C'est votre première exposition?
J'avais déjà fait une exposition sur les divas à Enghien-les-Bains, en plus au ministère de la Culture à Paris. Par contre, j'avais exposé des divas italiennes, surtout dans les cinémas. Claudia Cardinale avec la robe de bal de Guépard, Giulietta Masina, Valentina Cortese, Anna Magnani. C'est-à-dire, à l'époque aussi, le ministère de la Culture m'avait demandé en exposition des costumes, des vêtements de moi. Moi, je dis que je peux faire d'exposer des choses que j'aime, à la place d'exposer des choses simplement à moi, et de construire une histoire autour de ça. Et justement, j'ai créé ce concept, cette idée de montrer des robes de diva et de raconter le vécu d'une robe.
Et vous-même, aujourd'hui, alors avec les stars d'aujourd'hui, est-ce que vous les contactez? Est-ce que vous aimez créer pour quelqu'un? Est-ce que vous aimez, est-ce que vous imaginez voir une telle, un tel dans des vêtements que vous auriez créés pour eux? Pour
dans l'expo, vous avez deux pièces portées par June Anderson. Elles ont été créées par la présentation d'Haute Couture que j'ai fait à Paris le mois de janvier. June, c'est quelqu'un de formidable. Je trouve que c'est perfectionniste, folle. Dans la technique, et c'est pour ça que sa voix et la gestion de sa voix, elle est incroyable. Et aussi, dans tout ce que c'est sortir sur la scène. Alors, on a fait beaucoup d'essayages, elle était très, très exigeante. Il voulait que les choses, ils soient comme ils font. Il m'a dit, j'ai pas de problème de temps, je veux que les choses, ils soient comme ils font. Voilà. Alors, la chose que j'aime de mon travail, que ça me donne la permission de rencontrer des personnes comme ça.
Prochainement, d'autres projets?
D'autres projets. Moi, je ne travaille pas seulement dans l'organisation d'expositions, mais je travaille aussi dans le design et dans la mode. J'ai une exposition pour Designers Day à Paris, au Docks en Seine. Et le mois d'octobre, un grand rétrospectif sur mon travail, le mien et de mon associé Tal Lanzmann, à Saint-Étienne pour la Biennale.
Bien écoutez, belle exposition.
Merci.
Nous avons le plaisir de faire visiter à nos auditeurs de Canal Academy. Merci, Maurizio Galante.
Merci à vous. Merci.
Christian Lacroix, ce grand nom de la haute couture française, a mis sa création au service de bien des divas. Christian Lacroix est président d'honneur du conseil d'administration du CNCS, le Centre national du costume de scène. Nous l'avons rencontré pour vous à Moulins, le jour même où il venait découvrir l'exposition « Vestiaire de diva » scénarisée par Maurizio Galante. Nous avons recueilli à chaud les impressions de Christian Lacroix. Les voici. Christian Lacroix, parlez-nous de votre implication dans la création, je crois, dès l'origine de la conception de ce nouveau lieu du Centre National du Costume de Scène.
Oh, j'ai pris un petit peu le train en marche, mais c'est vrai que je me souviens avoir entendu parler pour la première fois du projet vers 1994. J'étais en train de travailler à la Comédie Française sur les costumes de Phèdre, qui m'avait valu un Molière, dont je suis encore toujours très fier. Et c'était... C'était mis en scène par Anne Delbé. Et à l'époque, on était... Moi, j'aime bien travailler sur les archives. Je voulais voir exactement toutes les mises en scène, toutes les productions, tous les costumes. Et c'est là que Joël Utvold, qui était à l'époque en charge de la bibliothèque de la Comédie Française, m'avait parlé de ce projet-là. Et Renato Bianchi, qui est dans le monde du théâtre, un être faramineux, parce qu'il a... Il continue, d'ailleurs, parce que c'est le genre de gens... qui disent « je m'en vais l'année prochaine » et qui ne s'en vont jamais pour notre plus grand bonheur, parce que les ateliers de la Comédie Française sans Renato, je ne sais pas ce que ça peut devenir. En tout cas, lui m'avait parlé de ce projet que j'avais trouvé osé, audacieux, Et c'est M. Lang, à l'époque, qui avait eu l'idée, dans le cadre de la décentralisation, de concentrer ici les réserves de l'Opéra Garnier, en tout cas une partie, puisque quand même la bibliothèque de l'Opéra garde certains costumes. Pareil pour la Comédie Française. Et puis, ce que j'ignorais, la Bibliothèque Nationale a une quantité formidable de très, 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 très belles archives. Parce que, par exemple, quand quelqu'un hérite des archives d'une compagnie de théâtre, c'est à la Bibliothèque Nationale que ça se retrouve. C'est comme ça que les costumes de Gérard Philippe dans le Cid se sont retrouvés là. Donc, ils sont partie prenante.
C'est une chose que l'on ne connaît pas beaucoup.
Voilà, la Bibliothèque Nationale, c'est des magnifiques, beaux livres anciens.
Voilà.
Il y a aussi des costumes. Donc, vers les années 2002-2003, je pense, j'étais en train de faire j'avais fait les costumes et les décors de Joyeux de Balanchine pour l'Opéra Garnier. Et tout ça devait partir en tournée, mais mon décor n'était peut-être pas pensé pour s'adapter à tous les plateaux de tous les opéras dans lesquels la production était censée tourner. Donc, il y avait par exemple des rétroprojections d'images de pierres précieuses et à Garnier c'était possible, mais ça nécessitait un espace. Mais c'était pas partout possible, quoi. Donc, on a décidé de faire une toile peinte. Je me souviens bien que c'était en allant aux ateliers Berthier, boulevard Berthier, travailler sur cette toile peinte, que j'entends parler de la concrétisation du projet de moulin. On me donne des articles des journaux de la région. Et on me dit, ça serait bien si vous acceptiez de présider ce lieu. Votre nom serait peut-être un accélérateur. Alors moi, pourquoi pas? Mais président, ça veut dire ce qu'on vient de croiser à l'instant, conseil d'administration, un tas de choses. Je trouve que la vie est courte et qu'on ne doit la passer qu'à faire ce qu'on sait faire. Mais bon, je connaissais depuis longtemps, et ma femme plus particulièrement que moi, Martine Kahn, un être à part, d'un humour, d'une culture, quelqu'un de très brillant, qu'on aime tendrement. Et là, c'était vraiment l'argument qui tuait. Quoi. Bon, si c'est Martine, on me dirait, il faut aider Martine, on va aider Martine.
Et vous connaissiez les lieux déjà ?
Non, alors là, j'ai découvert pour la première fois, avant l'ouverture, cet endroit. Et là, j'ai été très franchement... Je serais peut-être pas allé au-delà, mais non seulement le lieu, mais la ville. Je dois dire que j'ai été infiniment séduit, mais vraiment touché par cette ville et tout ce qu'elle contient. Dieu sait si je viens moi-même d'une ville très chargée d'histoire, puisque je suis né à Arles. Mais la ville de Moulins, c'est peut-être pas la même histoire, mais il y a, c'est le Bourbonnais, il y a le musée Anne de Beaujeu, il y a cette entrée du musée, ce porche qui a été le premier geste architectural de Léonard de Vinci. Il y a le maître de Moulins, il y a l'idée que aussi c'était une des villes frontières pendant la guerre qui séparait, puisque là nous étions en zone libre par exemple. La ville de Moulins était en zone occupée et le CNCS était en zone libre jusqu'en 1942. Donc je trouve que la ville était chargée, puis le fait qu'elle avait été oubliée quand l'autoroute a supplanté la Nationale 7, ça donnait une ville un peu belle au bois dormant. Le premier projet que j'avais quand j'étais enfant, c'était de dessiner pour le théâtre, pour le cinéma, pour l'opéra. Et je pense qu'on n'échappe pas à son destin et que j'y ai vu un signe. Bon, à l'époque, j'avais 55 ans, un truc comme ça. Je me suis dit, tu es rattrapé par ta passion d'enfance, d'adolescence, et ça ne se refuse pas. On a donc initié ensemble ce projet avec la première exposition qui était Bête de scène. Et ce lieu, la rénovation de Villemotte, l'escalier qu'on vient de prendre avec cette pierre du Bourbonnais tellement particulière.
Un lieu théâtre aussi.
Un lieu théâtral, exactement, avec une architecture qui, pour être militaire, n'en est pas moins d'une élégance absolue. Et c'est un endroit qui s'était beaucoup... ça a été une gendarmerie, je crois. Une aile s'était écroulée. Alors, il y a toujours du positif à saisir, pas dans les drames quand même, mais dans les petites catastrophes comme celle-là. Mais ça nous
permet
d'avoir...
Et vous connaissiez les lieux, déjà ?
Un espace d'exposition, puisque le sol s'était effondré, qu'il y a deux étages de hauteur de plafond, dans lesquels, là, pour l'exposition qui nous intéresse aujourd'hui, celle sur les divas, sur le vestiaire des divas, est dédiée à une série de costumes divers, et puis ce petit théâtre d'Alida qui me plaît beaucoup. Et quand on avait exposé mes propres costumes...
C'est une chose que l'on ne connaît pas beaucoup,
utilisé,
qui ne se dit pas beaucoup.
En drapant des décors de théâtre.
Voilà, il y a aussi des costumes.
Plus ou moins long terme, ça va être difficile. Ce lieu aura la vocation d'être aussi un lieu d'exposition des décors, ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas, sauf en Suède, je crois. Les décors, ben, c'est encombrant.
C'est encombrant. Oui,
mais c'est très magnifique aussi, puisque je me souviens toujours de ce jour qui était celui où on m'a convaincu d'aider Martine, où j'allais refaire mon décor joyau dans l'atelier Berthier, puisque une partie du personnel de l'opéra était là, en tout cas en ce qui concerne les costumes, parce que le Garnier était en restauration, je crois. Donc. Et ils avaient eu à faire de la place, à faire des rangements. Et qu'est-ce qu'ils avaient découvert ? Complètement oublié, heureusement, et pas jeté. Les premiers décors de Péléas et Mélisande, avec des techniques de peinture à la moelle de bœuf, qui permet de garder aux couleurs leur intensité la plus dense. Et là, quand on a commencé à dérouler ça, c'était merveilleux. Alors, ils sont là, quelque part. Alors, je pense que le bâtiment au fond de la cour, là, un jour, quand les moyens seront encore plus importants, sera dédié à exposer des costumes.
Alors, cette exposition-là, voilà. Précisément, sur les divas, vestiaires de divas, quelle a été votre part d'intervention ? Quand avez-vous découvert la scénographie mise en place par Maurizio Galante ? Aujourd'hui !
Je connais Maurizio depuis très, 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 très longtemps, depuis 20 ans, je pense. C'était un très, 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 très jeune designer. Et il avait gagné un prix à un festival de Monte-Carlo, un festival du... Je ne me souviens pas très bien. Je crois que c'était le festival du lin à Monte-Carlo. Et il était jeune étudiant, il avait gagné un prix qu'on lui avait attribué. On s'est vu de loin en loin et il a choisi un chemin qui n'est pas facile, de véritable artisanat. Sa famille est romaine, il est romain. Il travaille beaucoup sur des sortes d'origami, de pliage, de tissu, très élaboré, très long. Et il fait son chemin, ce qui est formidable. Je crois qu'on est dans une époque comme ça qui est un petit peu nivelée par un goût moyen, tout doit plaire à tout le monde. Mais je pense que les gens sont formidables et que le goût du public ne va pas forcément à la facilité et que quelqu'un qui arrive avec une proposition basée sur l'audace et la difficulté peut charmer son travail. En tout cas, il arrive à le perpétuer. Et c'est très heureux d'apprendre que c'est lui qui allait être donc commissaire de l'exposition puisqu'il l'avait déjà mis en scène à Enghien, dans un lieu dont j'oublie le nom, je suis désolé. Il y a un lieu formidable à Enghien où il avait déjà fait une exposition sur les stars, sur les divas du cinéma italien. Donc ici, on touche un petit peu moins le cinéma. On parle davantage d'opéra et de danse et de théâtre. Et je pense que c'était la bonne personne. Et pour vous répondre, moi, je voulais, comme je n'avais pas eu à travailler sur ce projet-là, je voulais le découvrir avec toute
alors,
ma
les
candeur.
Alors, les qualificatifs, les mots qui vous viennent à l'esprit, les mots.
Ce que j'ai aimé que là aujourd'hui, découvrir, c'est que l'espace ne se ressemble plus, ce qui est très important, parce qu'il peut y avoir un effet de lassitude pour les voyageurs, les visiteurs, les gens de Moulins qui viennent souvent. Il est très important que ce lieu grandisse, et non seulement grandisse, mais se diversifie, et que chaque exposition apporte un charme particulier. Et là, que ce soit d'abord l'apport des vidéos, tous ces documents de l'INA, parce que c'était un problème qu'on avait dès le départ dans ce musée. On montre des costumes, mais qui peuvent sembler être un petit peu morts, parce qu'un costume, selon la transpiration, la gestuelle, la voix, la lumière... C'était difficile de les faire parler. Moi-même, quand j'avais présenté tout ce que j'avais pu faire au théâtre en 20 ans, bah, sans les chanteuses, sans les acteurs, sans les danseurs, c'était
c'est
vraiment dur.
Ouais.
Voilà, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas les regarder comme des robes de haute couture, même si, particulièrement dans cette exposition-là, il y a des pièces qui sont d'une telle élaboration et d'un tel travail que c'est même au-delà de la haute couture. Mais là, aujourd'hui, dans cette exposition, l'apport des documents de l'INA projetés, ça donne vraiment la vie. De voir le costume et juste à côté, Régine Crespin chanter dans le costume, d'un coup, ça donne une intensité et ça projette notre regard vers ce pourquoi le costume a été fait. Il y a ça, puis il y a la qualité, parce que là, pour avoir travaillé sur deux, trois expos ici, je sais bien combien c'est difficile de persuader déjà les théâtres. Moi, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, cette expérience que j'ai eue avec René Fleming, on a réussi, et je sais qu'ils ont été très bienveillants et très coopératifs, le Metropolitan de New York, pour nous apporter ces deux Roms. Mais j'en ai fait beaucoup plus pour elle, mais bon, c'est difficile, la France, les États-Unis, c'est loin, et puis il y a la difficulté de ce lieu aussi, c'est que tous les costumes créés récemment, on ne peut que très difficilement les obtenir parce qu'ils continuent à tourner. Les costumes que j'avais fait par exemple pour Joyau, qui a été peut-être le ballet qui a eu le plus de succès parmi tout ce que j'ai fait, on n'a pas pu le montrer parce qu'il tourne encore au Japon, au Canada, aux États-Unis.
Et la notion de diva ?
Et la notion de diva,
c'est diva que vous côtoyez, pour lesquels vous créez, que vous aimez, qui vous entoure.
Oui, j'ai un peu de mal. Ce mot qui signifie quand même déesse, pendant très longtemps a été un mot très laudatif et qui peut-être prenait aujourd'hui un éclairage un tout petit peu plus péjoratif. Quand on dit diva, ce n'est pas forcément gentil aujourd'hui, ce sont des caprices. Et je dois dire que j'ai peut-être côtoyé pas mal de divas et qu'elles n'ont sans doute d'autant plus de vraies divas qu'elles n'avaient pas de caprices. Ou en tout cas, celles que j'ai rencontrées qui avaient des caprices, pour moi, n'étaient pas des divas. Je pense que la diva, c'est ce que nous racontait Delphine à propos de la Calas, quand elle dit si le costumier aime, j'aime aussi et je ferai ce qu'il faut. Pourtant, Dieu sait si on a dit que la Calas, c'est quelqu'un de difficile. Moi, parmi celles présentées aujourd'hui, c'est René Fleming, mais elle n'a pas du tout une réputation de... Elle n'est pas difficile, au contraire.
Des divas femmes... capricieuses.
Non, elles ont envie d'être leur personnage, avant tout. Et pour moi, diva, c'est quelque chose qui nous permet à nous d'échapper au réel, au quotidien. Ce sont des gens qui ont, c'est plus que du talent, c'est le don. D'abord, le don de la voix, un don technique. Alors ça, ce n'est pas du domaine du rêve, ce n'est pas du domaine du fantasme. C'est quelque chose qui
est... Le domaine du travail.
Gymnastique, du travail, concret.
De l'organisation.
Voilà, alors qu'on soit une grande danseuse, là, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, il n'y a aucun costume de danseuse, mais quelqu'un que j'ai pu habiller comme Sylvie Guillem, c'est quelqu'un qui peut avoir, qui a une réputation de diva. Quand on dit « elle est difficile », mais elle est exigeante, ce n'est pas difficile, elle est exigeante. Mais
quand... Il y a la dimension.
Voilà, et quand elle commence à esquisser un geste, quand elle fait un pas, ben on lui pardonnera tout.
Parce que l'art est là, l'art est vivant, l'art est créé.
Et il nous aide à traverser des périodes, encore plus aujourd'hui qu'il y a 4 ans, de difficultés économiques. Et dans ces périodes-là, on a d'autant plus besoin d'avoir cette grâce, d'avoir cette magie, qui encore une fois n'est pas du domaine du virtuel. Comme vous le disiez très bien, c'est vraiment quelque chose de travaillé. Quelque chose qui existe, qui est là, quoi. C'est...
Justement, philosophiquement, l'art dans la vie.
Il y a une jolie boutade, enfin une boutade, il y a un mot de... J'ai oublié le nom de l'écrivain ou de l'artiste qui a dit que l'art était ce qui rendait la vie plus belle que l'art. Donc c'est une espèce de pirouette comme ça. Mais ça dit assez bien ce que ça veut dire. Il y a une part de transcendance, une part de... On a besoin, je pense, ça fait partie de l'humain, de rechercher quelque chose qui amène plus loin, qui nous échappe, un mystère, une énigme. Alors certains le trouvent dans la religion, dans la spiritualité, et au-delà de la religion, dans la spiritualité, il y a l'art. Je pense que c'est quelque chose qui appartient à la recherche sur soi, sur le monde, sur les autres.
On entre dans une autre dimension ?
Ah oui, complètement. Elle existe, hein, elle est là, on ne l'a pas encore explorée. Elle a d'autant plus de charme et d'autant plus d'attrait que les mots ne suffisent pas à la décrire et qu'on est vraiment là encore
au
stade du balbutiement. Autant on a pu explorer l'espace, la technologie a fait des énormes progrès, mais dans ce domaine-là, qui sommes-nous ? D'où arrivons-nous ? Où allons-nous ? Et quid de la mort ? Et je pense, moi j'avoue que la religion ne me sert pas beaucoup, même si j'ai une spiritualité à moi, une manière de prier à moi, une manière d'être plus que juste de la chair et 5 sens. Je pense que l'art est la voie. La voix est vraiment ces femmes-là, ces hommes-là, parce qu'aujourd'hui on parlait beaucoup plus de femmes, il y a aussi des hommes qui chantent, mais on est tous peut-être plus sensibles. Là aussi, autre mystère, la femme. Ça, là j'ai sous les yeux la photo de Calas. Je ne sais même pas qui était Calas, j'avais 4 ans quand il y avait de grands débats sur l'équivalent de France Musique à l'époque. Mon grand-père écoutait religieusement à l'heure du déjeuner du dimanche, il fallait qu'on se taise. Et c'était le grand débat entre Tebaldi qui était la voix pure, et la Calas qui était une voix barbare. Et moi, je n'ai rien dit, je n'avais pas le droit de parler. Donc, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'habitait et qui était d'un, qui me dépassait et qui était d'une force incroyable. Et la voix de la Calas aujourd'hui, Dieu sait s'il y a plein de choses qui se... C'est du corps avec la 1. Hein, il y a des grands plaisirs qu'on peut avoir à 15 ans, puis quand on a 55 ans, ils sont un petit peu usés. Tu,
Je suis d'autant plus heureux, on se rencontre tous, là, il fait beau, dans un magnifique endroit, un petit peu dans une bulle hors du monde. Mais j'ai déjeuné avec le frère de Dalida. Et là, au-delà de la caricature, j'ai pu échanger avec lui. Et c'est vrai, moi je lui disais, mais est-ce que Dalida était une diva? Mais c'est vrai qu'on le constate encore aujourd'hui. Quand tout le monde est rentré tout à l'heure dans cette salle dédiée à Dalida, il y a eu un petit truc différent. Et quand on regarde, parce que moi je suis là pour tout voir sur cette terre, que ce soit les plus belles expositions, les plus belles œuvres d'art, mais aussi à la télévision, ce qui nous rend compte de ce que nous vivons comme la nouvelle star, j'ai vu une jeune fille, Luce, qui a choisi d'interpréter Gigi l'amoureuse de Dalida, qui est morte bien avant sa naissance. Et là, il y a un phénomène, je trouve, qui est basé à la fois, en discutant un peu avec tout le monde aujourd'hui, la diva, c'est peut-être quelqu'un qui a une part de grande humanité, c'est surtout pas une personne qui est coupée du monde, qui est inaccessible et qui est méprisante, c'est quelqu'un qui est abordable, mais qui vous amène justement, qui vous prend par la main, au propre figuré, pour vous amener ailleurs, dans des hauteurs, dans des dimensions, qu'on connaît mal et pour lesquels on n'est pas doué et pour lesquels on n'est peut-être pas fait, nous, aujourd'hui.
Merci Christian Lacroix.
Merci à vous.
L'exposition Vestiaire de Diva vous attend. Elle vous est donc proposée par le CNCS, le Centre National du Costume de Scène. C'est à Moulins jusqu'en décembre 2010 prochain.